Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Studio Zef. On se retrouve en ce jeudi soir, semaine de la Saint-Valentin, pour parler d'amour avec deux invités. La main dans la main, les yeux dans les yeux, ces petits instants d'éternité. La vie à deux perd un petit peu de terrain peut-être. Le couple est-il voué à disparaître? Le couple, c'est du boulot, comme dirait Fabrice Luchini. Ce plus petit groupe humain vivant en société, il nous pose beaucoup de questions au quotidien et on s'y intéresse cette semaine avec Thierry Bunas, sexologue, et Bénédicte de Plainval, conseillère conjugale et familiale. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci d'être venu à Studio Zef et d'avoir accepté notre invitation. Vous exercez dans le Vendômois. Pour commencer cette émission, j'ai choisi un petit extrait. Je parlais de Fabrice Luchini dans l'introduction. Je vous laisse écouter cet extrait d'une émission avec Mireille Dumas qui date déjà un petit peu. Et on en parle juste après.
Le couple est une chose fascinante parce que c'est pour les autres aussi. On indique aux autres qu'on est ensemble. Ça ne peut pas fonctionner dans le face-à-face sans les amis. D'où l'horreur des couples en amis en vacances. Ce qui est horrible dans le couple, c'est que plus personne n'est sexualisé. On va chez qui? On va chez les untel. Tu sais qu'il ne se passera rien. C'est immense le problème du couple. Le couple, dans le mauvais côté, c'est pour se fuir soi. C'est-à-dire l'individu totalement incomplet cherche dans l'autre la complétude. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu qu'est le couple. Alors ils savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc c'est 1 plus 1 qui fait un 3. C'est le 3, c'est eux, eux deux. Et quand ils disent cette phrase terrifiante, « Oh ben nous, on a décidé de plus aller au Maroc. Hein. » Vous savez, les femmes, elles font des choses comme ça. « Oh ben nous, on a décidé... »
Oui, mais vous pouvez rester deux entités.
Mais c'est très rare, ça c'est individus. Merveilleux. Mais c'est très rare, c'est très rare. Vous savez, quand les gens disent « Moi, nous, on n'a pas du tout aimé le Maroc. Hein. » Pas vrai ? Léon ? Alors Léon, il est dans les bidons, il est en train de... Il bricole le mari souvent. Hein. Il dit quoi ? Hein, t'as pas aimé le Maroc ? Non, j'ai pas aimé. Bon, évidemment, c'est une idée un peu minable. Il y a le couple sublime, il y a le couple Sartre-Simone de Beauvoir, ça a de la gueule. Mais il y a le couple fusionnel qui est intéressant, il y a le couple normal. Comment tu vas, chérie ? T'as fait les courses, je redescends, ça peut être magnifique. Je ne juge aucun couple.
Magnifique.
Je ne dis pas du mal hein, des couples. Je dis que c'est du boulot, le désir, 20 ans après, comment ils se remontent dessus, c'est du
évidemment,
boulot.
C'est du travail.
Comment ils font pour se provoquer de la libido, 20 piges, ils connaissent tout. Non mais attendez, ça c'est une vision négative, mais la vision positif, c'est échapper à la solitude. Il n'y a rien de plus déprimant que d'être seul. Le couple, c'est quand même la solution pour ne pas être seul. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le couple référentiel qu'on admire est un lieu de revanche, est un lieu d'animosité. Ce n'est pas un lieu béni, ça n'est pas vrai. C'est un lieu de frustration, c'est un lieu d'animosité, c'est un lieu de... C'est un lieu qui peut être minable ou grandiose ou qui peut être quotidien. Je ne le lis... C'est un texte... C'est passionnant, le couple. On ne peut pas le réduire. C'est un problème qui me fascine. Ce que j'ai appris avec la maturité, je vais tout vous dire. Si je vivais en couple, j'attendrais tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je vis en couple, il faut qu'il me sauve. Il faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Il faut que je sois plus déprimé. Il faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Il faut qu'elle soit miraculeuse. Je ne parle même pas physiquement. Mais il faut qu'elle soit miraculeuse. Il faut qu'elle me sorte de moi. Ça, ce n'est pas possible. Personne ne peut se sortir de toi.
Voilà, c'était Fabrice Luchini qui dit beaucoup de choses dans ce petit extrait d'émission. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous retrouvez dans ce qu'il dit les choses pour lesquelles des personnes viennent vous consulter et vous demander des conseils ? Et est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'il dit sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, qui vous agacent ?
Alors moi je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il dit, en plus c'est drôle, c'est paradoxal. Parce qu'en fait, le couple, c'est un assemblage totalement paradoxal. Donc, à la fois, on cherche à être sauvé par l'autre, on sait que l'autre peut pas nous sauver, mais on a cette attente quand même, la complétude, le « nous » et le « je » qui serait peut-être fondu, confondu à certains moments, ou peut-être tout le temps. Voilà, et qu'en fait, c'est peut-être le système le plus compliqué, mais le plus recherché, donc le plus difficile. Il a dit, c'est un sacré boulot, c'est ça ?
Oui.
Le couple, c'est du boulot.
C'est ça.
Oui, derrière Luchini, c'est difficile. Il dit énormément de choses, peut-être même beaucoup trop à sa manière. Oui, c'est du travail au quotidien, et encore, travail, ça dépend comment on entend le terme. Là où je suis, bon, on pourrait tout reprendre détail par détail, mot par mot. Mais ce qui me touche là, c'est son 1 plus 1 qui fait 3. Ça fait 2, peut-être 3 à un moment. Mais l'idée, c'est de devenir 1. Ou alors, c'est tout un ensemble de couples différents. Et c'est vrai qu'il amalgame plein de couples différents, plein de constructions de couples, de structures de couples différentes. Et c'est en ça que son texte est beau. Heureusement qu'il met de l'humour, heureusement que c'est du Lucchini avec son phrasé et ses qualités. Parce que sinon, ça rendrait les choses beaucoup trop, en effet, paradoxales et complexes.
Quels sont les différents styles de couples à l'époque contemporaine et comment elles évoluent depuis que vous avez commencé votre carrière?
Alors, il me semble que par rapport moi, je travaille avec les couples depuis une vingtaine d'années, mais je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder bien en amont, parce que les jeunes générations d'aujourd'hui qui ont grandi avec un smartphone dans les doigts, les réseaux sociaux, etc., sous les doigts, pardon, n'imaginent pas comment le rapport à soi et le rapport à l'autre, le rapport amoureux, le couple dans la société ont pu évoluer en quelques dizaines d'années. Alors moi, je suis née dans les années 60, donc j'ai été un petit peu témoin quand j'étais jeune d'une époque qui était assez différente d'aujourd'hui dans ses représentations. Au fond, les choses ont peut-être pas tant changé qu'on l'imagine. Mais aujourd'hui, on a peut-être une vision très fusionnelle du couple. Un idéal dont on sait bien que la fusion permet pas d'être 1 plus 2 égale 3, c'est 1 plus 2 égale 1. Donc c'est difficile de la durer dans la fusion pour que chacun puisse exister, se développer, se revendiquer lui-même, j'allais dire, en tout cas avoir sa personnalité, se déployer. Donc aujourd'hui, on a sans doute une vision très fusionnelle, un peu idéalisée par rapport au sentiment amoureux qui est très important, qui est très recherché, qu'on voyait beaucoup dans les romans du 19e siècle, parce qu'on n'avait pas du tout la même façon de faire couple à l'époque. C'était très transgressif, l'image de l'amour à l'époque. Donc on est un petit peu encore habité par tous ces paradoxes-là. Voilà, puis pas un grand désir quand même, comme dit Lucchini, de la solitude, c'est pas drôle. Donc peut-être que la moins mauvaise formule, c'est de vivre en couple, mais c'est un sacré défi.
Oui, couple ou communauté, ou il y a pas de. Nous sommes des êtres sociaux, donc la structure couple, c'est une structure qui a été inventée après inventée par notre socioculture. Toutes les formes de couples peuvent exister, des couples parentaux, des couples fusionnels amoureux, des couples libertins, des couples sportifs. Bon. Je crois pas que l'idéal fusionnel soit aussi prégnant. C'est un des éléments qui est là. C'est peut-être quelque chose qu'on nous met devant les yeux comme une espèce de direction. Mais au fond de soi, enfin, je parle pour ma clinique et les gens qui viennent me voir, c'est pas tant ça qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est plutôt une harmonie. Non pas une fusion, mais une harmonie au quotidien. Pouvoir vivre ensemble avec leurs différences et comprendre peut-être d'où ils viennent. Parce que le couple se constitue à partir de structures familiales différentes, à partir de valeurs, de cultures différentes et de fois tellement opposées qu'au bout de quelques années, ça se frictionne un petit peu et pas dans le bon sens. D'où peut-être les consultations qu'on a l'un et l'autre. Donc la multiplicité des couples, elle est compliquée. J'ai envie de dire que chaque couple est unique. On y retrouvera évidemment dans les grandes lignes quelques éléments similaires. Mais dans le détail, chaque couple que l'on reçoit, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chaque couple est totalement unique dans sa dynamique, dans sa trajectoire. Personne ne sait où ils vont.
La plupart du temps, pour quels enjeux les couples que vous recevez viennent vous rencontrer?
Alors, moi, de mon côté, alors, j'exerce en libéral et j'exerce dans une institution aussi, donc les demandes et les profils de personnes sont un petit peu différents. La plupart du temps, pas majoritairement, on va dire peut-être un cas sur deux, c'est des situations plutôt liées à l'infidélité. Alors, si on qualifie une infidélité, ça veut dire qu'au départ, il y aurait eu peut-être un contrat, ou pas, ou un contrat, non pas explicite, mais implicite, qui dirait que ça sous-entend, quand on est en couple, qu'on est fidèle. Voilà, ça, c'est la plupart des couples fonctionnent comme ça, enfin, je le remarque. Et quand il y a une infidélité, ça fait effraction, et c'est très perturbant, pour les deux, ou en tout cas pour celui qui aurait été victime de l'infidélité de la part de l'autre. Voilà, ça fait violence et souvent les couples viennent dans ce contexte-là. Aussi des couples qui découvrent, enfin, ou qui font tout un chemin qui les amène à des crises, parce que je pense que la crise, monsieur, je pense, par son travail, percevra la même chose, mais le couple fait jamais l'économie de la crise ni du conflit. Et il y a des couples qui viennent en situation de crise parce que ça fait partie de la vie déjà et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de résoudre certains conflits. Alors en eux déjà, leur conflictualité interne, parce que c'est pas simple de se construire soi-même. Et puis dans leur relation de couple, peut-être il y a des choses qu'ils ont mis sous le tapis ou à la naissance d'un enfant ou bien des choix professionnels, des choix de vie, qui ont fait qu'il y a des frustrations, des absences de communication qui ont fait qu'ils en arrivent là à la situation un peu de crise qui fait vraiment souffrir. Ou l'un des deux peut-être a dit « mais en fait, moi, je voudrais arrêter ». Et donc, ils viennent là avec des demandes peut-être différentes, justement. Et je vais devoir travailler avec ça, enfin, ou les aider à travailler avec ça. Voilà, majoritairement, je dirais que c'est les deux situations, ou alors des couples qui viennent demander pour améliorer leur communication, mais ceux-là, en général, ils sont ils disent qu'ils ne se sentent pas bien et qu'ils ne vont pas bien. Donc, on peut un peu les mettre dans une situation dite de crise qui n'est pas, qui est assez négative aux yeux de la société, mais finalement, la crise, c'est aussi l'occasion d'avancer et d'évoluer, mais c'est dur à traverser. On se sent en échec.
Thierry ?
Je retrouve un peu les mêmes demandes et les mêmes besoins. Évidemment qu'avec l'étiquette sexologue sur ma plaque, je vais attirer peut-être des demandes beaucoup plus liées autour de troubles de la vie amoureuse et intime, autour de troubles liés à des adultères ou à des addictions sur le porno, à des intérêts différents, à des demandes libertines de l'un, pas de l'autre. Donc ça... Et en effet, ce sont toujours des situations de crise, oui, bien sûr, de grands questionnements qui peuvent être liés, oui, aussi à la parentalité qui apparaît, qui peuvent être liés à la précarité qui apparaît, qui peuvent être liés à des changements professionnels importants qui bouleversent, enfin tout ce qui est évidemment des résurgences traumatiques qui peuvent des fois... révéler des impossibilités de communication parce que le trauma est là, qui vient bloquer toute la relation. Donc on est face à des personnes qui sont en crise. Alors certaines, en effet, peuvent venir aussi chercher le moyen de se séparer élégamment ou proprement. C'est pas la majorité, mais ça arrive. C'est une autre forme d'accompagnement. Souvent, très très souvent, la grande majorité viennent... Je trouve un peu trop tard. La crise, elle est profonde, elle est enquistée. Il y a beaucoup de rancœur et du coup on a beaucoup de travail pour revenir à un état au moins où il y a une possibilité, en effet, de reconstruire peut-être un nouveau contrat relationnel qui est très très difficile s'il y a eu trahison.
Tous les deux, vous parlez de contrat. Est-ce qu'il y a toujours besoin nécessairement d'une sorte de contrat? Faire couple.
Dans le sens où j'arrive avec une histoire, une construction, des origines familiales, une structure familiale, des transmissions transgénérationnelles, un environnement socioculturel, éventuellement une culture, une religion, j'arrive avec tout ça, c'est pas rien. Donc implicitement, j'attends un accord en fonction de ça. Et le problème, c'est que c'est pas toujours dit, parlé, échangé. Et que l'implicite n'est pas clair.
Oui, alors moi, parfois, je dis aux personnes, dans les coulisses de la scène du couple, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses, même de personnes, de la famille, des membres de la famille. C'est important aussi de connaître. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont la notion que tout ça, ça compte, tout ça, c'est quelque part en eux, c'est quelque part entre eux, en fait, mais ils savent pas trop quoi en faire, et tant qu'ils n'ont pas pu adresser cette difficulté ou adresser une parole à quelqu'un d'extérieur à leur couple, c'est difficile pour eux de mettre en mots, d'imaginer, de problématiser la situation qui les préoccupe, parce que souvent, quand on va pas bien, quand on se sent pas bien relationnellement, on est un petit peu embrouillé. C'est de la faute de l'autre, c'est de ma faute. Enfin voilà, et la question, c'est pas de désigner un coupable ou un responsable. Parfois, il y a des couples qui veulent nous amener à ça. J'imagine que vous le voyez aussi, qui désigne le responsable comme étant l'autre, et c'est lui qu'il faudrait soigner, entre guillemets, ou c'est lui qu'il faudrait envoyer chez le psy. Encore mieux.
Oui, d'autant plus s'il y a eu adultère, s'il a fauté ou s'il est toujours devant son écran.
Oui, c'est ça. Parce que, oui, comme vous dites, l'adultère aussi peut se passer de façon virtuelle. Mmh. Moi, j'ai un certain nombre de couples qui ont retrouvé comme ça des ex ou des anciennes relations ou des amis d'enfance ou des amours de jeunesse sur les réseaux sociaux comme ça, et qui sont ou même des nouvelles personnes, hein, peut-être par les sites de rencontres ou des sites peut-être à caractère porno aussi. En tout cas, voilà. Ça vient comme un tiers, en fait, dans le couple. Ça vient dire quelque chose aussi de ce qui pouvait ne pas aller dans le couple. Parce que finalement, l'infidélité, quelquefois, au-delà de l'acte lui-même qui met les gens en situation de grande insécurité et de traumatisme, après, pour accompagner un travail sur la relation de couple avant cette infidélité, alors qu'il y a des choses vraiment importantes à aller explorer, à aller questionner, mais c'est pas toujours facile quand les gens sont vraiment très mal.
Oui.
Mais c'est souhaitable quand on parvient à accompagner, à aider les gens à mettre des mots, dédramatiser, parce que finalement, l'infidélité, c'est dramatique, mais c'est pas non plus... Moi, j'ai vu des couples rebondir de façon vraiment... Enfin, j'allais dire intéressante, j'ose pas le dire, mais de façon résiliente, voilà.
Alors, on a parlé de ce qui ne marchait pas et ce qui poussait les couples à vous consulter. Qu'est-ce qui fait qu'une relation de couple fonctionne et c'est quoi le boulot dont parle Fabrice Lucchini?
Bah, c'est peut-être de ne pas attendre que le 14 février pour donner une preuve d'affection, d'amour, d'attention, de tendresse, de désir à l'autre. Hein, c'est entretenir... c'est en ça que Lucchini a raison, c'est du boulot, c'est tous les jours. Être attentionné à l'autre et le désirer et pas l'oublier, c'est ça. Alors après, le désir prend plein de formes, hein, mais au moins avoir de l'attention pour l'autre et lui montrer tous les jours. Parce que nous sommes tous des êtres, hommes et femmes. Après, il y a des tas de caricatures qui sont faites, hein, mais nous sommes tous des êtres qui avons besoin d'être désirés, d'être attentionnés, de recevoir de l'information. L'information plutôt positive, mais même éventuellement en situation de crise, de l'information négative qui nous ramène quelque part dans la relation avec l'autre. Parce que, en ce sens-là, la crise peut être salutaire. C'est-à-dire, quand on est en train de partir sur des voies parallèles, un moment de crise peut nous ramener dans un lieu de communication, dans un lieu de partage.
Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait... par rapport à la communication dans le couple, il y a quelque chose qui paraît important. Souvent, les couples disent on n'a plus rien à se dire ou on n'arrive pas à se dire les choses. Je pense que la communication émotionnelle, ça me semble vraiment fondamental dans le couple. Et quelquefois, les journées se suivent. Hein. Les êtres humains vivent pas des choses extraordinaires tous les jours. Mais même au retour du travail, se dire peut-être le plus important, c'est pas forcément ce qu'on a fait aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce qu'on a vécu? S'il y a une situation qui a posé problème, c'est pas tant aller débobiner le patron ou le collègue, mais dire, la personne m'a dit ça, j'ai ressenti, vous voyez. Et ça, je crois qu'on n'est pas habitué à ça, et c'est pas chose facile, hein. parce que aussi dans le couple, même dans la relation commune hein, entre les êtres, souvent quand quelqu'un exprime son émotion, on va lui dire c'est bien, c'est pas bien, ou tu devrais pas penser ça, ou ah tiens, l'autre va chercher une solution pour résoudre le problème. Il s'agit pas tant de résoudre une situation que d'écouter. Et quand on écoute l'autre, souvent, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est d'accuser réception.
D'être présent.
D'être présent, voilà. Parce que le premier contenant dans le couple, c'est le partenaire, en fait. Et si on ne va pas trouver chez son partenaire cette écoute, cette disponibilité, cette présence, comme vous disiez, peut-être qu'on va aller la chercher chez quelqu'un d'autre. Un collègue au travail qui va nous prêter attention, on va commencer à se confier. Voilà, on va être sur un chemin où l'intimité, justement, émotionnelle va trouver une pente qui va peut-être aboutir à une relation extra-conjugale. Alors qu'en fait, le premier lieu, c'est intéressant que ce puisse être dans le couple. Et parce que ça développe, c'est une, comme vous disiez, une dynamique qui peut être intéressante et enrichissante.
Est-ce qu'en matière de sexualité, j'imagine que c'est d'autant plus difficile de communiquer, Bénédicte le disait, la difficulté de communiquer et se confier?
Non, ça peut être difficile, ça ne l'est pas toujours. Après, ça dépend de quelle génération on parle. Hein. Je pense que les générations actuelles ont beaucoup plus de facilité à parler. D'ailleurs, quand je vois des couples assez jeunes, des trentenaires ou des cadras, ils ont tendance, ou même des un peu plus jeunes, ils ont tendance à partager beaucoup, sauf si dans leur famille, ça a été tellement tabou, tellement freiné, tellement peu éduqué ou tellement malmené, traumatique, que la parole n'est pas déliée là. Donc communiquer autour de la sexualité, autour du partage et quelle forme de sexualité? C'est pareil, ça aussi, hein, l'empan il est très large, très vaste, hein, de manière à ce que chacun soit gagnant-gagnant dans cette histoire, en termes de quoi, de rythme, de comment, de quand. Il n'y a aucune règle dans la sexualité, sauf peut-être des limites que la société donne ou que l'humain doit donner. Et surtout les limites du consentement à jouir ou pas jouir de telle ou telle manière. Mais ça, c'est aussi de la communication et qui participe à la dynamique du couple. Quand on parle de présence et d'attention, c'est aussi faire attention à ce que l'autre, parce qu'il est peut-être fatigué, peut-être malade, ou dans une posture de maman ou de papa, il n'est pas dans la sexualité. Hein. Il n'est pas dans ce désir-là. Parce que l'autre... sous une charge mentale, professionnelle, à le cerveau qui est complètement parasité et n'est pas dans cette dynamique-là. Mais tout ça, ça se communique, ça doit se partager. Et l'entretien du couple au quotidien, c'est aussi ça.
Je vous propose une première pause musicale. On écoute « Aimer sans amour » de Goetz et on se retrouve juste après.
À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. De maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. Aimer sans amour.
Nous sommes toujours dans la lorgnette. Nous avons pour thématique ce soir la Saint-Valentin et le couple en général, avec comme invité Thierry Bunas, sexologue, et Bénédicte de Plainval, conseillère conjugale et familiale. Alors la Saint-Valentin, elle participe à cette façon qu'on a d'élaborer une histoire sur le couple, sur notre couple. C'est une sorte de rituel pour célébrer le lien amoureux, et vous le disiez pendant la pause musicale, l'importance de revenir à ses fondements, aux fondements du début de la relation, et l'importance de mettre des mots et de nourrir cette mémoire des débuts.
Oui, c'est retrouver le chemin de la rencontre, retrouver cette sensibilité, cette magie de l'attention qu'on a posée sur cet autre qui nous a attiré, l'œil, la pensée, le corps, l'âme. C'est retrouver les racines de l'histoire. Hein. Alors, ce qu'on se disait aussi hein, pendant la pause, c'est que les racines ne sont pas forcément toujours des racines très lumineuses, mais elles existent. Et les pensées peuvent être intéressantes, hein, peuvent être très intéressantes en thérapie, oui.
Les pensées, les exprimer, se les verbaliser aussi, parce que ça fait partie un peu du roman du couple, ou de la romance, et que en fait, probablement que chacun est à la recherche de revivre ces moments magiques, de les faire ressurgir, de les voir se réanimer, ce qui est possible, mais pas à 100% en général, parce que ce qu'on a vécu, on va le revivre d'une manière différente, étoffé, enrichi, probablement moins vibré dans tous les domaines, comme c'était le cas quelques années auparavant ou quelques mois auparavant, mais parce qu'on va évoluer vers quelque chose de différent qui a ses richesses aussi. C'est sûr que c'est un petit peu moins enthousiasmant dans la mesure où c'est moins magique, mais en tout cas faire revivre ces moments dans le couple, se le remémorer, parce que moi je m'aperçois dans ma pratique que les couples, le fait de se raconter, c'est très important pour eux. Parce que finalement, ils ont peu de lieux où se raconter, où mettre en récit, en perspective leur histoire, parce que ils sont englués entre guillemets dans le quotidien. Puis s'il y a des enfants, évidemment, c'est absorbant, le travail. Et puis tout ça, ça paraît un peu derrière, ça paraît un petit peu sous les cendres. Mais sous les cendres, il y a souvent encore des braises.
Vous le disiez tout à l'heure, hors antenne, le couple, parler de notre relation de couple, c'est un peu la cinquième roue du carrosse. Et Thierry, vous ajoutiez, et la sexualité, c'est la septième.
Oui, dans le sens où, au bout de quelques années, au bout de quelques dizaines d'années, si on n'y fait pas attention, et de toute façon, notre socioculture nous amène à ça, hein, on est tellement chargé d'activités, de défis, de dettes, d'un certain nombre de choses qui peuvent être dues aux enfants, qui peuvent être dues à des pathologies aussi, que notre énergie attentionnelle étant limitée, si elle est très très occupée par ailleurs, on va en prendre où pour continuer à avancer. Donc souvent c'est moins d'attention sur le couple. Et puis moins d'attention sur le couple, c'est moins d'attention sur l'intimité, parce que il faut continuer à utiliser cette énergie par ailleurs. Donc c'est un chemin à faire. Alors c'est pas marche arrière, c'est un chemin pour retrouver en effet les éléments qui nous ont nourris initialement quand on s'est rencontrés. Et il n'est pas impossible d'ailleurs même au-delà de le parler, de le remettre en scène. C'est-à-dire de refaire vivre des choses qui vont toujours être similaires. Évidemment, si on a 15, 20 ans de plus, ça ne peut pas être les mêmes corps, les mêmes esprits, les mêmes fonctionnements, les mêmes physiologies. Mais les remettre en scène pour revivifier, remettre de la lumière dans ce contrat relationnel, on va dire. On va le remettre en scène lui aussi.
Et puis la sexualité, c'est aussi un lieu de jeu. Un lieu de créativité, parce que l'intimité, en fait, au quotidien dans le couple, ça ne va pas toujours de soi. Comme vous disiez, on est absorbé, on est fatigué, tout pousse à ne pas cultiver cet espace-là, qui est fondamental, mais ce n'est pas non plus le seul espace. Quelquefois, quand les couples ont des difficultés ou des blocages dans la sexualité, ils pensent que c'est l'échec de leur couple. Alors qu'en fait, c'est un des piliers, mais ce n'est pas le seul. Et justement, à des moments où cette situation de relation intime, de sexualité, est un peu plus fragilisée par des différentes choses, on va dire, y a d'autres piliers qui vont, d'autres lieux qui vont pouvoir asseoir la relation. C'est comme si la relation repose que sur l'émotion, le sentiment amoureux. Quelquefois, il y a des gens qui me disent « j'ai plus de sentiments ». Et alors l'autre qui entend ça, elle m'a dit qu'elle avait plus de sentiments pour moi. Et ça, c'est vrai que c'est dur d'entendre ça, c'est un peu dur de l'exprimer, mais qu'est-ce que c'est que le sentiment? Qu'est-ce qu'on met dessous? Voilà. Et quand on détricote un peu, il peut y avoir de la frustration. Mais est-ce que le sentiment, c'est l'émotion? Tout à l'heure, on parlait de désir ou peut-être de projet. Parce que finalement, tout à l'heure, on parlait des fondements du couple, mais il y a aussi la question du projet et de la dynamique, vers quoi on a envie d'aller.
On se sent capable d'aller.
Et vers quoi on se sent capable d'aller. C'est comme un bateau qui s'en va, il quitte le port, mais s'il ne sait pas où il va, les tempêtes, les récifs vont être là. Et le cap, il peut être très différent pour chacun, c'est à chaque couple. On parlait de contrat tout à l'heure. C'est à chacun de voir ce qu'il a envie de vivre ou ce que le couple a envie, le nous qui peut se bâtir autour de ce projet.
Thierry, pourquoi vous insistiez sur capable d'aller?
Alors, parce que souvent, on peut se retrouver, c'est ce que je vis avec les couples que j'accompagne, ils peuvent se retrouver à coup de tempête, à coup d'obstacles, de récifs, de continents. Qu'ils ne connaissent pas, de territoires inconnus, ils peuvent se retrouver empêchés, avec ce sentiment de ne pas être capable d'investir un territoire nouveau, d'investir un nouveau chemin. Ils se sentent peut-être impuissants. Donc là, on a plein d'éléments qui vont venir parasiter ce couple qui se sent impuissant, l'un ou l'autre, ou les deux. Donc c'est pour ça que je disais capable. Et ce n'est pas une question de volonté, pas toujours de volonté. On peut vouloir pouvoir, on peut pouvoir vouloir, on peut le tricoter dans tous les sens. Mais à un moment, ou à des moments, plusieurs, à coup de crise, à coup des fois de pathologie, de traumatisme, d'échec, de conflit, de difficulté, ça peut être très très compliqué de se sentir en capacité de continuer à avancer.
Chaque semaine dans la lorgnette, on propose une recommandation de livres, de podcasts, de films en lien avec la thématique du jour. Aujourd'hui, nous avons choisi le podcast de Delphine Saltel, produit par Arte Radio, le numéro 17 de la série « Vivons heureux avant la fin du monde ». On écoute un extrait.
Oh, Bon, évidemment, il y a l'homme et la femme de ma vie. Bon, bah, une fois que vous avez dit ça, comment ne pas envisager une rupture avec cette personne comme la fin de votre vie? Enfin, comme si le langage avait disséminé des sortes de pièges et qu'on tombe dedans parce qu'on a besoin de romance et qu'on aime ces mythes et qu'ils sont magnifiques et qui constituent notre histoire intime et collective aussi. Mais ils peuvent être néfastes, toxiques, quoi, pesés.
C'est compliqué, je trouve, à accepter cette idée qu'on devrait se méfier des mots d'amour. Parce que, précisément, quand on est amoureux, on ne peut pas s'en empêcher de parler, de chanter, d'écrire, de slammer. L'amour et le langage, ça va ensemble, ça se nourrit.
Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence.
Quand on tombe amoureux, on est souvent démuni face à cette chute, une forme de chute à la fois dans le corps, puisque c'est notre désir qui nous porte vers l'autre. Et donc, il y a ça qui fait que déjà, on se sent plus fragile, plus vulnérable. Et en fait, on a besoin de se le raconter. D'abord parce que sans le langage, la chose pourrait ne pas exister. C'est-à-dire que c'est le langage qui donne une réalité à un sentiment, même à une relation. Et on a tendance à se raconter donc des histoires d'amour, ce qu'on se raconte à peu près dans d'autres domaines de nos vies, mais là particulièrement, là, il semblerait que l'humain n'est pas capable de vivre une histoire d'amour sans se la raconter. Et quand il se la raconte, donc cette histoire, eh bien, elle commence par ce début qui est le fait de tomber amoureux, et on a tendance à convoquer toutes sortes de forces extérieures pour compenser notre perte de contrôle. Linguistiquement, sémantiquement, ça va donner quoi? Ça va être le destin, en général. On devait se rencontrer, c'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre, qui l'a mis là, il y avait des signes. Et donc, c'est ce que j'appelle un moment de surinterprétation, d'hyper-herméneutisme. On est là, t'as vu, si j'étais là ce jour-là, c'est à cause de ça, c'est parce que on voit des signes partout. Et le monde entier conspirerait pour favoriser cette rencontre. C'est-à-dire qu'on a du mal à en rester au hasard.
Voilà, c'est un extrait de ce numéro 17 de Vivons heureux avant la fin du monde par Delphine Saltel. Et l'épisode est disponible sur le site d'Arte Radio. Et il parle de l'influence de nos mots, des mots qu'on utilise sur l'amour, sur nos histoires d'amour, notre manière de les vivre et de ce qui se passe au sein du couple. Delphine Saltel, dans ce podcast, explique qu'il est donc essentiel de réfléchir à ce que les mots d'amour charrient comme signification, leurs sous-entendus et les malentendus qu'ils produisent. Et la première personne qu'on entend dans l'extrait, c'est Julie Neveu, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps sur le langage de l'amour, qui est aussi très intéressant. Est-ce que Bénédicte et Thierry, vous avez des conseils de livres, de films, de choses autour de la thématique?
Oula! Comme ça, à froid ou à chaud après quelques dizaines de minutes? C'est compliqué. C'est compliqué, les bibliothèques sont remplies de choses qui vont du romantique à l'universitaire, du fantaisiste aux grandes profondeurs, hein, ou ailleurs. Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit tout de suite comme ça.
Pas de souci. Ouais.
Moi également, vous nous prenez un peu au débotté. Mais c'est vrai qu'en regardant sur Internet, il y a... C'est comme dans tous les domaines, il y a tout et le meilleur et le pire qui se côtoient. Enfin, au niveau du couple, en fait, il y a quand même beaucoup de choses, des podcasts qui sont vraiment intéressants. Il y a beaucoup d'ouvrages aussi sur la vie de couple et je pense qu'aujourd'hui, on lit beaucoup de choses ou d'articles ou même de livres sur qui démystifient un peu la vie de couple, qui disent bah tout le monde traverse des situations. Enfin, voilà, mais j'ai pas immédiatement comme ça.
Pas de souci. Alors, on a beaucoup parlé du couple, mais qu'en est-il des personnes, par exemple, en relation libre? Est-ce que c'est peut-être la solution au méfait, entre guillemets, du couple? Comment dire ça mieux?
Pourquoi méfait du
couple? Aux impasses, vous voulez dire.
C'est ça, oui, oui, oui.
C'est quoi les personnes en relation libre?
Qui font le choix d'un contrat où il y a plusieurs partenaires.
Ok.
Ou qui décident de ne pas se lier.
Aussi, oui.
Voilà. Par
exemple. Qui décident d'être libertin ou pluriamoureux ou polyamoureux.
Oui.
Ok. Bah, ça, c'est. D'abord, c'est pas dû à tout le monde. Je crois que ce sont des constructions particulières que certains ont, certains, certaines, Yel compris. Et bah, grand bien leur en face. Tout est... À partir du moment où il y a de l'amour, et du plaisir, et du partage, bah, tout est bon à prendre et à vivre. Il n'y a pas de... les gens qui vivent, qui préfèrent être à deux, ou à trois, ou en communauté. Hein. Ce sont des choix de vie. À partir du moment où ces choix de vie sont dûment consentis et éclairants et jouissants, bah, c'est très bien.
Moi, je pense que si ça fait sens pour les personnes, pourquoi pas ? Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde où chacun est plus libre de ses choix. Les choix sont en général beaucoup plus respectés, beaucoup plus admis. Toutefois, on voit que même si ces choix sont très respectés, très admis, les gens ont quand même besoin d'appartenir et de reconnaissance de la société, voire que ce soit des nouvelles choses qui soient instituées. Donc après, on est dans une polysémie de beaucoup de situations. Donc c'est ça qui peut poser question aujourd'hui par rapport au couple. Avec beaucoup de... C'est comme la sexualité, on parle aujourd'hui de sexualité au pluriel.
Bien sûr.
Comme il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, voilà. Donc ce qui est intéressant, voilà, après, comment chacun peut, avec tous ses choix et toutes ces situations différentes, peut choisir quelque chose qui lui convient, qui fasse sens pour lui, qui le structure si possible, parce que chaque être humain a quand même besoin, il me semble, d'avoir une structure, enfin on a un squelette, donc c'est parce qu'on a plein de morceaux de notre corps qui tiennent ensemble, qui s'articulent et qui se transmettent la vie, voilà. Et il me semble que c'est important aussi que chacun fasse des choix en fonction de quelque chose qui les tient. Et par rapport à ça, ça me fait penser à par rapport à la vision du couple, il y a encore plusieurs dizaines d'années, voire peut-être 80 ou 100 ans, le couple c'était beaucoup plus le corset institutionnel. Il y avait des choses qui étaient mal vues, voilà. Ben, l'union libre était mal vue, le divorce même était mal vu, les mères célibataires, on appelait les filles mères, c'était mal vu, enfin voilà. Donc aujourd'hui, toutes ces situations-là sont beaucoup plus acceptées, accueillies socialement, ça ne pose plus problème, voilà.
Enfin, presque plus.
Presque plus.
Presque plus. Bon, c'est vrai qu'on a une déconstruction des normes depuis à peu près un siècle et demi, qui permet... à plusieurs orientations sexuelles, amoureuses et sexuelles d'exister, à plusieurs places au monde, au genre d'exister, à plusieurs formes de relations d'exister. Donc cette déconstruction des normes, elle a son avantage, c'est qu'elle permet donc une lumière sur toutes les possibilités, toutes les variations de la vie. Après, l'inconvénient, c'est que on retrouve des formes de niches parce qu'on a besoin d'être, comme vous le disiez, entre pairs, entre groupes, de reconnaissance. Bon, et puis le travail n'est pas fini, il y a toujours des arrière-gardes qui sont blessés de tout ça.
Oui, et c'est peut-être pas si simple. Alors, pour revenir au corset social, moi j'aime bien prendre l'image du corps en disant ben, les femmes, il y a 100 ans, portaient des corsets, enfin certaines femmes. Donc ça les tenait. Mais quand on enlevait le corset, c'était un peu mou, pas très musclé. Aujourd'hui, on n'a plus ce corset social. Donc c'est important pour, peut-être de se muscler pour bien tenir, voilà. Et c'est à chacun de trouver ce qui va l'aider à tenir. Ce qui n'est pas facile, hein, parce que c'est assez anxiogène aussi. C'est assez anxiogène parce que tout est possible. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'être plus libre, mais aussi on est plus responsable. Voilà. Et ça peut être un petit peu anxiogène. Et on arrive à des générations aussi où il y a beaucoup de choses qui sont anxiogènes dans la société. La planète, l'écologie.
Oui, il n'y a pas besoin de regarder que le couple et la construction de l'individu. Hein.
Voilà, oui. C'est ça, autour de soi, la Bien guerre sûr. Aux portes de l'Europe. Et ça participe aussi à une inquiétude générale. Et il y a une inquiétude aussi par rapport au couple. Et en même temps, il y a un grand désir d'être aimé, d'aimer et d'avancer dans le lien, comme on
Bien
disait
sûr.
Tout à l'heure.
Et de cette harmonie dont vous parliez au début, plutôt Et que oui. la fusion.
Oui, une harmonie plus qu'une fusion.
Oui. Et ben merci beaucoup à tous les deux. On arrive déjà à la fin de cette émission. Cette émission sera réécoutable en podcast sur le site studiozef.fr. Et on se quitte comme chaque semaine avec le journal de bord d'un élu local. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lorgnette. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur le 91.10. Au revoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Journal de bord d'un élu local. Aujourd'hui, épisode 71, la Confédération paysanne. avec notre invitée, Anne Martin. C'est parti! Bonjour Nicolas!
Salut Gaël!
C'est trop fort! Bonjour Nicolas!
Salut Gaël!
Ça va?
Ouais, très bien.
Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Ben aujourd'hui, on continue de discuter avec Anne Martin, parce qu'on l'a invitée au titre de la Confédération Paysanne, mais on ne s'est même pas dit...
Ben oui.
Qu'est-ce que c'est que la Confédération
Bonjour Anne.
Paysanne?
Bonjour, ben oui. Alors... La Confédération Paysanne, alors c'est un syndicat de paysans qui malheureusement est en minorité dans le monde paysan, mais qui à mon avis porte vraiment toutes les solutions du futur pour l'agriculture. Entre autres, l'agriculture paysanne.
Et... Oui, l'agriculture paysanne. Ouais. Dans, vraiment dans ce côté-là, ciblé, est-ce que tu peux en parler un peu plus de ce côté de l'agriculture paysanne?
En fait, donc il y a le côté revendicatif, hein, et puis il y a aussi tout un côté qui nous est très cher, c'est d'être très constructif. Et donc depuis quelques années...
Vous êtes d'accord avec la FNSEA depuis que c'est ça?
Oui, tout à fait d'accord avec la FNSEA. Alors... En fait, de nombreux jeunes se tournent vers l'agriculture aujourd'hui. Et malheureusement, la FNSEA croit pas beaucoup dans leurs projets. Et nous, on pense que c'est vraiment une force phénoménale pour l'agriculture d'avoir tous ces nouveaux entrants qui ont de nouveaux regards sur la manière de faire. Beaucoup de choses très innovantes. Et donc, la Confédération Paysanne s'attelle depuis une dizaine d'années à être très accueillante avec tous ces gens-là, pour les accueillir, pour que des fois ils disent bah non, en fait, c'est pas mon truc, mais pour que des fois ça débouche sur des vraies installations.
Et tu nous as pas dit ce que c'était l'agriculture paysanne.
Alors, l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui essaie d'être le plus autonome possible, en amont et en aval. C'est une agriculture qui permet. Aux paysans de vivre décemment de leur métier. C'est une agriculture qui est en lien avec son territoire. C'est une agriculture qui protège l'environnement. Et je pense qu'il y a encore un autre pilier que j'oublie. Et donc, à chaque fois, on a un diagnostic et on a fait des formations autour de ça pour analyser un peu nos fermes. Et voir en quoi on était, on avait encore des choses à améliorer ou on était bon. Enfin, et en fait, l'intérêt c'est d'échanger entre paysans et de construire un peu mieux nos modèles agricoles.
Si je caricature un peu, tu me diras si c'est ça ou pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des élections pour être représenté à la Chambre d'agriculture et que dans ces élections, souvent s'oppose la Confédération paysanne. Qui porte ce modèle d'agriculture paysanne et la FNSEA qui porte un modèle plus productiviste et plus mondialiste de l'agriculture et où souvent bon bah c'est quand même beaucoup la FNSEA qui remporte la majorité des sièges.
Et oui. Voilà. Parce qu'en fait on est un peu dans les élections, c'est un peu bananier en fait. Des fois on est monté jusqu'à 25% et on a eu que 3 postes à la Chambre d'agriculture sur 30 postes quoi. Je dis 30 postes, voilà, je ne sais pas exactement.
Parce qu'il y a une prime majoritaire.
Parce qu'en fait, il y a une manière de calculer. Il y a plein de collèges et il y a des espèces de collèges où c'est obligatoirement des gens de la FNSEA qui vont être élus. Il y a des collèges banques, il y a des collèges mutualités, etc. Et là, c'est des gens... Oui, voilà, cooptés.
Sans vote.
Ou des votes avec des électeurs qui choisissent. Par exemple, les propriétaires, on ne fait pas voter tous les propriétaires dans ce collège-là. C'est quelques propriétaires qui ont été désignés.
C'est des grands électeurs.
Des grands électeurs, ouais. Mais qui sont désignés, on ne sait pas comment. Et nous, on a même vu sur la dernière liste des gens qui étaient morts et qui étaient électeurs. Enfin, c'est incroyable. Et donc, ils se retrouvent là depuis aux dernières élections. Je ne sais plus combien de pourcentage on a eu, mais je crois que c'est plus de 10%. Enfin, ça doit être 17%. Et il y a 2 élus à la Chambre d'agriculture. C'est très difficile de se faire entendre.
Hein. D'accord.
Et tu me disais que vous étiez construit d'abord sur des grands combats, des fois, et puis de plus en plus, vous êtes dans plus l'accompagnement des...
Oui. La Confédération Paysanne, en fait, au tout départ, hein, il y a une trentaine d'années, était beaucoup sur des combats. On connaît le combat de José Bové, etc. Mais nous, on était vraiment sur la même...
Contre les méga-fermes.
Voilà. Et en fait, Et en fait, c'est vrai qu'avec les années, on essaie toujours un petit peu d'avoir cette option sur les combats, mais on est beaucoup plus... les jeunes qui s'investissent à Confédération Paysanne sont quand même plus attirés par le fait de soutenir des nouvelles installations en se disant qu'à force, ils vont être majoritaires.
D'accord. Et alors, donc, il y a une véritable dynamique dans la Confédération Paysanne pour aider les entrants, comme tu les appelles.
Donc, voilà, la Confédération Paysanne a monté une association qui s'appelle l'ADEAR, Association pour le développement de l'emploi agricole et rural. J'ai été la première présidente, on l'a créée quand moi j'étais à la Conf, et avec cet objectif-là, quoi, d'accompagner les gens à l'installation, d'accompagner des créations de liens entre producteurs et consommateurs, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on se fasse épauler par la société civile pour réussir à faire entendre un peu nos idées. Et donc l'ADR maintenant est vraiment s'occupe beaucoup, beaucoup d'accompagnement de gens qui ont des projets d'installation.
On travaille avec eux là en ce moment. On fait avec le PAT, dont on a déjà beaucoup parlé sur cette émission.
Le plan alimentation territoriale.
Tout à fait.
Je le rappelle quand même.
Voilà, avec la SAFER et Terre de Liens et l'ADR, on travaille sur un recensement auprès de tous les maires des terrains en friché qui pourraient retourner à l'agriculture. Puis parallèlement, il y a un travail de recensement un peu des porteurs de projets potentiels. Et l'idée, ça va être d'accompagner sur 6 sites une requalification de friches.
Pour... C'est quoi ? Une requalification de friche, c'est quoi ?
C'est une friche qui se retransformerait, qui retrouverait un usage agricole pour permettre l'installation de porteurs de projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis dans la boucle aussi le CDPNE, comité protection de la nature et de l'environnement.
Comité départemental de protection de la nature et de l'environnement.
Bravo.
À deux, on y arrive. Et du coup, ils vont aussi faire un relevé biodiversité, ce qui fait qu'on aura un accompagnement des agriculteurs pour que ça soit une agriculture aussi protectrice de la biodiversité. Et puis sur un des sites, on en fera non pas un projet agricole, mais un projet pour la biodiversité.
Mmh. D'accord.
Sur une petite parenthèse. Les
okay.
Mais oui, c'est en cours, c'est vraiment en ce moment.
Mais ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Nous, c'est marrant, par exemple, sur notre ferme, on a constaté à la fin de notre carrière, on a toujours été en bio, que la biodiversité, elle était... Enfin, vraiment, on a... constater dans notre mare, elle a été examinée par des gens, mais je crois du CDPNE, ils avaient trouvé vraiment des espèces remarquables. Les chasseurs nous ont dit, mais sur votre ferme, c'est incroyable toute la diversité qu'il y a. Ils avaient fait des comptages, enfin, mais nous on constatait nous-mêmes quoi.
Il y avait un ornithologue aussi qui est connu comme ça, qui a repris une ferme, qui est un ancien ornithologue et qui est très suivi parce qu'il fait énormément de choses pour ça. Et ça lui permet d'améliorer aussi les rendements agricoles, parce qu'en fait, par exemple, tu fais tes rangs de courgettes, et puis entre tes rangs de courgettes, tu vas mettre des bandes en fleurs, et tu auras moins de virus, elles seront moins sur tes courgettes ou des choses comme ça. Ça a aussi des avantages flagrants parce que tu as ce qu'on appelle des auxiliaires de la nature qui vont eux-mêmes compenser. Comme tu n'es pas en monoculture, ben, tu as moins de risques que tes cultures elles soient infectées. D'accord. Enfin, tu as plein de choses intéressantes comme ça. Ou le bois mort que tu laisses sur place pour les insectes xylophages, ou tes tas de pierres que tu laisses pour pouvoir aussi accueillir des insectes et tout ça. C'est assez intéressant.
Ok, alors revenons à la Confédération Paysanne. Est-ce qu'il y a des projets futurs j'imagine que du coup, vous allez déjà continuer à porter
ce projet-là.
Contre le golfe des pommes.
Actuellement, moi je ne suis pas dans le comité, hein, donc étant retraité, on est un petit peu en retrait, on laisse les plus jeunes, on vient en appui des actions.
Tu nous disais que tu pouvais consacrer plus de temps depuis que tu avais arrêté ton activité de par la retraite, et qu'en fait, le fait d'avoir eu la retraite suffisamment jeune, ça te permettait de continuer de travailler, mais dans autre chose qui était plutôt... justement l'investissement dans les associations, dans le milieu associatif, et que tu considères que finalement tu me parlais de ça.
Moi je trouve que les retraités, on a une activité qui est indispensable quand même pour la société. On participe à la vie associative, il faudrait énormément de subventions pour nous remplacer tous autant qu'on est. Et pour nous, enfin, nous, après une période d'activité agricole qui était quand même très intense, c'est hyper agréable de passer à autre chose. Et on y passe quand même beaucoup, beaucoup de temps, et mon mari et moi. Et on est très, très utile. Et je trouve que le débat sur les retraites, on ne mesure pas que tout l'apport qu'apportent les retraités à la vie locale et publique. Et ça, c'est des grosses
économies.
C'est une
vie associative très riche en France,
qui
comble des fois les déficits de l'État dans certains domaines.
Complètement.
Et je crois que c'est une chance, et sans doute que notre système de retraite permet cette vie associative riche.
Ouais. Si on nous emmène jusqu'à ce qu'on soit usé, on ne pourra plus avoir l'énergie de s'investir. Laissons-nous quelques années où on peut encore faire d'autres choses. Et c'est tellement riche. Et...
Ouais. Un système de solidarité, la retraite, qui permet encore plus de solidarité.
Ben oui, absolument, complètement.
Est-ce que ça ne nous ferait pas une fin, une conclusion très intéressante à notre épisode qui était passionnant? Merci beaucoup, Anne, d'être venue.
Ben, merci aussi.
Témoigner. Ouais. Et puis, merci, Nicolas.
Ben, merci,
Gaël. On se retrouve la semaine prochaine.
Ben, évidemment.
On parlera d'autres choses. À bientôt.
Merci. À bientôt.
Salut.
Oui, je fais une légère correction du podcast sur le projet foncier. Alors, en réalité, on a trois étapes dans ce projet de foncier. On a vraiment une partie formation sur le foncier agricole auprès des élus, qui là est portée par Terre de Liens et la Chambre dans un partenariat pour former les élus locaux que nous sommes aux questions de foncier agricole. Il y a une deuxième partie sur la remobilisation des friches dont j'ai parlé. Et là, ce partenariat, c'est la SAFER, la Chambre d'agriculture, qui ont remporté dans le cadre d'un marché public. Et on a associé ça, en effet, à une convention avec le CDPNE pour accompagner aux enjeux de biodiversité. Et l'ARDEAR, qui est l'échelon régional de l'ADEAR, va en effet participer dans un second temps sur l'accompagnement des porteurs de projets, pour qu'on identifie des porteurs de projets et qu'on les accompagne pour les installer sur les friches qu'on aura ressenties. Et donc ça correspond bien à ce que Anne-Martin nous explique de la forte présence de l'ADEAR sur l'accompagnement des porteurs de projets. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est assez intéressant avec ces PAT, j'en avais déjà parlé, c'est que ça arrive à faire collaborer différentes personnes qui des fois collaborent peu, c'est-à-dire faire travailler la Chambre d'agriculture, le CDPNE, l'ARDEAR et Terre de Liens tous ensemble dans un même projet. À la base, c'est pas forcément une évidence pour ces partenaires-là. Et là, ça se fait et ça marche très bien. C'est comme ça qu'on arrive à aller tous ensemble dans le bon sens. Et donc, c'est le côté très positif, je trouve, de cette démocratie que porte le projet alimentaire territorial sur les enjeux alimentaires.
Moi, c'est Nico et c'est mon premier mandat.
Ton premier mandat de quoi ?
Je suis vice-président d'une agglomération et co-président d'un groupe écologiste à Blois.
Ah, moi, je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast.
Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité.
Et on en a déjà fait 60. Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast, à raison de 3 par mois. Les applis de podcast, c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Et on est aussi sur la radio locale Studio Zef.
Agitateur de fréquence.
Dans l'émission La Lorgnette.
C'est 91.1, c'est ça ? FM.
Chaque jeudi.
À 17h.
Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao.
Ciao, merci. Ciao, ciao.